Bonsoir Laure Adler, bonsoir Laurent Delmas.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes.
Ah, c'est bien, ça me ramène un peu en arrière de ce temps où j'avais la joie de vous croiser tous les jours à France Inter. On est avec vous ce soir pour parler d'Agnès Varda, Laure Adler. Vous signez donc ce magnifique livre. Donc ces deux livres sont sortis aux éditions Gallimard et Laurent Delmas. Donc ce livre sur Jean-Paul Belmondo qui a été aussi une série, un podcast qu'on peut encore écouter donc sur France Inter. Qui est parfaitement passionnant, j'en suis témoin. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel regard ils avaient l'un sur l'autre, Agnès Varda, Belmondo. Est-ce que vous savez ça ?
Comment botter en touche ? Merci Laure. Je ne suis pas certain d'avoir des éléments de réponse réels à cette question. La seule chose, c'est que dans un premier temps, ça a été presque d'ailleurs moi mon réflexe. Je me suis dit, mais ils ne se sont jamais croisés. Ce sont deux lignes parallèles dans l'histoire du cinéma français. Et en fait, c'est faux. Belmondo a tourné sous la direction d'Agnès Varda, mais dans un OFNI, un objet filmique non identifiable, qui est un film hommage pour les 100 ans du cinéma français. Autour de Michel Piccoli, de Mathieu Demy et de Julie Gayet, et dans lequel qui est traversé par une bonne partie du cinéma français de l'époque. Et Belmondo joue dans son propre rôle, comme toutes les apparitions dans le film, joue son propre rôle dans le film d'Agnès Varda. Mais c'est à ma connaissance la seule rencontre cinématographique qu'ils aient faite. Et après, alors il y a une chose qui les unit, c'est le 14e arrondissement. Belmondo est né dans le 14e arrondissement et il en parlait beaucoup. C'était un lieu qu'il aimait bien. Voilà. Après, je crois que honnêtement, c'est deux galaxies extrêmement différentes, même si Belmondo a fait partie, au moins au début de sa carrière, de la galaxie Nouvelle Vague. Laquelle, selon moi, et contre l'avis des historiens, n'a pas été fondée par François Truffaut ou Jean-Luc Godard, mais la galaxie Nouvelle Vague, elle a été fondée par Agnès Varda.
Je suis bien d'accord avec toi.
Et après, les choses sont advenues. Mais voilà, c'est la galaxie les a rassemblés, mais sans les faire tourner ensemble et sans qu'effectivement, ils se croisent autrement que par ce rôle anecdotique dont je viens de parler.
Alors, vous voyez, on dit toujours qu'on cherche toujours des pères à des grands mouvements artistiques, intellectuels. Moi, je préfère les mères, mais il n'y a pas beaucoup de mères. Je pense personnellement, et je ne savais pas que Laurent pensait comme moi, on est deux, donc on va pouvoir fonder une association à but non lucratif et qui sera efficace. Je pense effectivement qu'Agnès Varda est la mère de la Nouvelle Vague et que ce n'est pas ni François Truffaut ni Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard était un grand ami d'Agnès Varda. Jean-Luc Godard et Anna Karina étaient au mariage de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Il y a eu une constellation amoureuse, une constellation amicale, une constellation artistique qui a été très profonde dans un moment commun qui les a tous réunis pendant extrêmement longtemps. Quand Agnès Varda a commencé à montrer ses courts-métrages dans des festivals en province, et c'est d'ailleurs de cette manière qu'elle a rencontré pour la première fois Jacques Demy, c'était au cours d'un festival de court-métrage à Tours, je crois. Eh bien, celui qui faisait les articles dans les cahiers du cinéma, des articles dithyrambiques sur les documentaires d'Agnès Varda, c'était Jean-Luc Godard, qui l'a soutenu comme critique de cinéma d'une manière absolument exceptionnelle et absolument extraordinaire. Et par rapport à ce que dit Laurent, comme j'ai eu la chance de pouvoir aller dans les archives et que Agnès Varda consignait beaucoup tous les jours, elle écrivait, elle a beaucoup fantasmé sur Belmondo. Elle a beaucoup écrit dans son journal intime sur Belmondo. Elle se faisait des listes d'acteurs préférés qu'elle aurait bien aimé engager. Il y avait toujours Belmondo. Et il a fallu qu'elle attende effectivement un certain âge ou un âge certain. Ça dépend de la manière dont on voit la vieillesse, pour pouvoir engager Jean-Paul Belmondo. Mais elle l'a toujours eu dans son rétroviseur sentimental. Elle l'a toujours beaucoup aimé, mais elle n'est pas passée à l'acte. Elle est passée à l'acte avec Gérard Depardieu, mais d'une autre façon, puisque c'est elle qui a découvert Depardieu. C'est elle qui l'a fait jouer pour la première fois au cinéma, dans un court-métrage qui n'est jamais sorti, et où il est absolument extraordinaire. Mais Jean-Paul Belmondo, je pense que comme elle ne l'avait pas découvert, peut-être qu'elle le gardait au chaud, et puis il est bien dans le film sur l'histoire du cinéma, d'ailleurs,
bien,
Belmondo.
Il est magnifique. Oui, le magnifique, bien sûr.
Comme d'une façon générale, d'ailleurs, parce qu'ils ont tous les deux, ils ont beaucoup en commun, finalement. Quand on vous lit tous les deux, on se rend compte que c'est rigolo, puisque vous dites Laurent Delmas, finalement, qui sont de galaxies très éloignées, et en même temps, c'est assez rigolo, ils ont beaucoup en commun. Par exemple, il y a une chose qui est un peu, j'ai envie de dire, presque une niche, mais qui revient quand même dans votre écriture à tous les deux, c'est la musique. C'est le rapport à une forme de musicalité, mais même du geste, même de la parole. Même, alors Belmondo, on le sait, il est associé officiellement à des musiques, Agnès Varda, évidemment. On ne va pas y revenir, mais enfin, ses amitiés, notamment avec Michel Legrand, et puis bien sûr, son histoire avec...
Et elle a composé beaucoup de chansons qui sont dans ses films. C'est elle qui les... Et y compris dans les films de Jacques Demy, ce qu'on oublie toujours.
Mais ce rapport à la musique est finalement très fort pour tous les deux dans leur rapport au cinéma ?
Belmondo, c'est particulier. Hein. C'est quand même quelqu'un qui ne savait pas chanter. Hein. Et...
Varda croyait qu'elle savait chanter, mais elle chantait faux.
Oui, c'est ça. Mais elle prenait plaisir à chanter. Lui ne prenait absolument aucun plaisir, je pense à chanter. Il y a l'anecdote formidable qui est celle de Clouseau qui souhaitait que Belmondo joue dans La Vérité avec Bardot. Le rôle sera pris par Samy Frey, mais si le rôle est pris par Samy Frey, c'est parce que le personnage inventé par Clouseau, adapté de la réalité, mais est chef d'orchestre. Et quand Clouseau dit ça à Belmondo, Belmondo dit « c'est hors de question, je ne peux pas interpréter un chef d'orchestre, je ne connais rien à la musique et je n'entends rien à la musique, de façon littérale du terme. » Et Clouseau a essayé de le convaincre. Il a même enfermé dans une pièce pour le faire travailler à la Clouseau. Hein. Clouseau, c'était un peu à la Schlag. Bon, il essaye, mais on pouvait guère imposer de choses à Belmondo. Et Belmondo a fini par claquer la porte en disant « je ne camperai pas ce personnage ». Alors, il se trouve que, par une sorte d'ironie, mais d'auto-ironie, il a fini par accepter un rôle de chef d'orchestre dans « Un homme qui me plaît » de Claude Lelouch, où là, effectivement, il est chef d'orchestre. Mais clairement, le rapport musical de Belmondo avec la musique, c'est de l'ordre du degré zéro. Or, en même temps, effectivement, il y a de quoi parler beaucoup de Belmondo et de la musique, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que de Georges Delerue à Philippe Sard, en passant par Claude Bouling et beaucoup d'autres, les compositeurs des films de Belmondo sont tous... presque tous de très très grands compositeurs avec de sublimes partitions musicales comme celle par exemple de La Sirène du Mississippi. Donc on a quelqu'un qui ne chante pas, qui n'aime pas chanter, qui n'aime pas la musique, ce qui le met dans une position assez rare au sein du cinéma français, mais qui joue dans des films au BO superbe. Donc ceci compense cela.
Mais vous écrivez quand même dans votre livre que Daniel Thompson dit « Belmondo, c'est une musicalité naturelle ».
Ça, c'est autre chose.
Vous dites aussi que les compositeurs dont vous venez de parler disent que Belmondo, ça inspire toujours.
Oui, c'est effectivement la gouaille du belmondisme qui vient du 14e arrondissement en directe ligne. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une musicalité qui fait qu'il peut parler d'ailleurs aussi bien le Duras, que Laura Adler connaît bien et qui est une langue assez particulière, qu'il parle dans Moderato Cantabile, que le Audiard, que nous connaissons bien, qui est une langue tout à fait différente du Duras, mais que les deux, dans sa bouche, ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Donc effectivement, et puis il parle Jean-Claude Carrière, et puis le Daniel Boulanger, etc., qui sont autant de langues, de vraies langues de cinéma très particulières, très singulières, et à chaque fois, effectivement, ça marche. Alors que sur le papier, on pourrait dire, bon, s'il parle le Audiard, il ne sait pas parler le Duras, etc. Mais ce n'est pas le cas. Les deux vont et jusqu'au bout, les choses seront tenues comme ça. Puisque jusqu'au bout, il parlera aussi en même temps du Audiard et du Edmond Rostand. Donc ça, c'est bien aussi.
À cet égard, moi, je voudrais dire que dans le formidable bouquin de Laurent Delmas, j'y ai confirmé des intuitions que j'avais secrètement et que je n'osais pas avouer. C'est-à-dire qu'on prend Belmondo pour un brave type, pour un grand acteur, mais un type pas super intelligent. Et en fait, très sympa, mais pas un aigle. Et en fait, il est super intelligent. Et c'est ce que découvre l'ouvrage avec les multiples facettes que signe Laurent en ce moment. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire, il habite des langues, il habite des univers. Alors, il n'accepte pas toutes les propositions, mais à partir du moment où il accepte une proposition d'un cinéaste, cette plasticité intellectuelle et artistique fait qu'il habite le rôle, qu'il est là complètement, et que cette espèce de compréhension de la multiplicité des univers le rend vraiment extrêmement profond. Alors que beaucoup de choses qui circulent dans son aura, il est très aimé par les Français, mais il n'est pas considéré comme un acteur suprêmement habité ou suprêmement intellectuel, comme par exemple Samy Frey ou Jean-Louis Trintignant, etc. Et d'ailleurs, je reviens sur ton bouquin, à un moment, je ne sais plus qui, je crois que c'est Rebecca Zlotowski dans ton bouquin qui parle des acteurs féminins et des acteurs masculins. C'est très intéressant. Alors, Belmondo, il est masculin-masculin. Mais Samy Frey, il est masculin-féminin. Jean-Louis Trintignant, il est féminin-masculin. Est-ce que Belmondo est masculin-masculin ?
Mais je ne suis pas sûr en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une ambivalence qu'il a certainement à la fois assumée, avec laquelle il a joué, qu'on voit par exemple... Alors, le l'Acmé, c'est la sirène du Mississippi. C'est le personnage que lui fait jouer François Truffaut, qui est un personnage de petit garçon manipulé par cette mante religieuse sublimement jouée par Catherine Deneuve. Et c'est tellement une mante religieuse qu'elle essaie de l'empoisonner. Hein. C'est ça l'histoire de la sirène du Mississippi, quand même. Bon, donc, c'est pas rien. Et là, effectivement, c'est un petit garçon. Là, effectivement, il est son côté féminin par rapport à une Catherine Deneuve. Ça touche effectivement à cette forme de rapport-là. Et d'autres fois, effectivement, la virilité l'emporte de très, très loin. Mais c'est ce que dit en même temps Ginette Vincendeau, que j'ai interviewé, qui est une très grande spécialiste du genre au cinéma, et où elle a, je trouve, une belle analyse en disant « Oui, c'est un macho, mais c'est un macho séduisant et séducteur, et il est sympathique. Donc, il emporte le morceau. » La façon dont Belmondo fait passer le machisme et le virilisme, dont il fait passer la pilule, c'est effectivement par le sourire. Ce que ne sait pas faire Alain Delon, par exemple, le sourire. Il a d'autres qualités. Mais celle-là, il ne l'a pas, ou il ne veut pas la voir. Je fais un petit rétro-pédalage, d'ailleurs, par rapport à ça, et à la différence de Delon-Belmondo, qui est une vertèbre, voilà, un peu facile, mais qui existe aussi. Et ils étaient très amis, contrairement à ce qu'on a toujours prétendu, bien sûr. Mais quand Jean-Pierre Melville propose le scénario du samouraï à Alain Delon, Delon lit très rapidement le scénario et contre ce que pensait un peu, Melville espérait bien sûr qu'il lui dise oui, mais il n'était pas tout à fait certain. Et Delon va lui dire oui immédiatement. Et Melville lui demande mais pourquoi si rapidement ? Et Delon lui a répondu parce que je ne parle pas pendant le premier quart d'heure du film. Et je trouve ça extraordinaire. Évidemment, Belmondo n'a jamais tourné un film dans lequel il n'aurait pas parlé pendant un quart d'heure. Ça ne peut pas exister. C'est une machine verbale aussi. C'est un corps, évidemment, dans des décors, mais c'est aussi une voix. Bon, la différence, elle est là. C'est-à-dire, il y a le hiératisme quasi japonais de Belmondo, de Delon d'un côté, et puis cette espèce de gouaille de permanente de Belmondo.
Mais vous dites, à propos de ça, dans votre livre, vous parlez de virilité décomplexée. Et vous dites que finalement, à cette époque-là, c'est assez nouveau.
Alors, moi, je trouve qu'il y a un phénomène que met en avant très bien Ginette Vincendeau et Rebecca Zlotowski, d'ailleurs. Et je pense que Laure en sera assez d'accord. Il se passe quand même quelque chose avec cette partie de carrière viriliste de Belmondo. Elle intervient dans la France des années 70-80, qui est donc une France post-mai 68. Et qui, sauf erreur de ma part, est une France où les avancées féminines sont réelles. la loi Veil, les Giscard d'Estaing et Mitterrand avec François Giroud, Simone Veil, la loi de l'égalité professionnelle, salariale. Il y a des choses qui se passent, certainement pas assez, mais il y a des choses qui se passent par rapport à avant 68, où là, on était quand même pas très loin d'une claire domination masculine sociale. Il se passe donc des choses. Et les films auxquels on pense, Le Marginal, Le Professionnel, Le Solitaire, donc uniquement des titres masculins, singuliers, etc., sont faits par des gens qui s'appellent Michel Audiard et Lautner, notamment. Et la thèse, mais on peut ne pas y adhérer, c'est que c'est presque une contre-révolution qui se passe, c'est-à-dire des hommes qui tout d'un coup s'aperçoivent qu'ils évoluent dans une société qui n'est plus la leur, du point de vue des rapports entre les hommes et les femmes. Et ils vont écrire des scénarios, des dialogues, des situations où effectivement le masculin prend sa revanche sur un féminin dont ils ont l'impression qu'il est en train, sinon de prendre le pouvoir, du moins de connaître une sorte d'équilibrage social paritaire, le gros mot. Et c'est très intéressant la façon dont effectivement ces gens-là ont travaillé en prenant Belmondo comme vecteur. La question de savoir, je pense qu'il l'assume, je pense que lui était au-delà de ce genre de considération, quasi politique, mais qu'en tous les cas, c'est ce qui se passe à ce moment-là, d'une sorte de contre-révolution sociale à l'intérieur du cinéma français, dont Belmondo est l'un des plus beaux représentants, parce que, évidemment, et c'est, je termine par là, pardon, je suis trop long, mais que comme tout passe par le sourire, ben, la pilule passe mieux. Voilà, la pilule de ce virilisme dont je pourrais vous donner des exemples qui nous semblent atterrants désormais. Et j'en termine juste par là, en disant qu'il y a une rupture, en tous les cas, sur les partenaires féminines. La seconde partie de la carrière de Belmondo, au revoir Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Anna Karina, Jean Seberg et tant d'autres, c'est-à-dire des vraies grandes actrices avec des vrais grands rôles féminins. Bonjour, des starlettes dont tout le monde oubliera le nom une fois le film sorti, et avec des personnages qui n'existent quasiment pas, sauf en termes plastiques, pour une ou deux séances de drague, etc. Mais les personnages féminins de la seconde partie de la carrière de Belmondo sont inexistants.
Et qu'est-ce qui fait que Agnès Varda, qui est une femme très engagée, ne soit pas associée comme du militantisme, puisque finalement, dans son travail, on retrouve quand même à chaque fois, et même dans sa vie, des choix qui sont incroyablement féministes. Et pourtant, elle garde l'image d'une femme accessible, d'une femme qui est difficile à mettre dans une case, si ce n'est la sienne.
Parce qu'on ne naît pas féministe, on le devient. Et que Agnès Varda n'a pas été féministe pendant longtemps. Elle a d'ailleurs fait des films qui sont extrêmement ambigus par rapport au féminisme. Elle est devenue féministe au moment du procès de Bobigny. Elle s'y est rendue comme bon nombre de féministes. Elle a été aux côtés de Gisèle Halimi. Et puis elle a mené une enquête très approfondie pour pouvoir savoir ce qui se passait dans ce féminisme naissant à l'intérieur des groupes de parole de femmes. Elle a réussi à s'introduire à l'intérieur de certains groupes de parole. Les archives en témoignent. Elle a aussi essayé de comprendre ce que c'était que le désir masculin auparavant, et elle s'est pliée à un regard de cinéaste neutre. Il se trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de cinéastes femmes à l'époque, donc elle était une des rares, et elle a subsisté très difficilement en faisant ses premiers films. Et il y a un film que moi, personnellement, je trouve extraordinaire, que je n'hésite pas à qualifier de chef-d'œuvre esthétique et artistique, parmi les premiers films, qui est Le Bonheur. Et dans ce film, le scénario est quand même extrêmement particulier quand on parle de féminisme, puisque c'est l'histoire d'un homme qui est très amoureux de sa femme, avec qui il a deux enfants. L'homme est interprété par Jean-Claude Drouot, qui à l'époque était une vedette des feuilletons télévision. Et Agnès Varda n'avait pas mégoté, puisqu'elle avait engagé Jean-Claude Drouot et sa femme dans la vraie vie. Et ses enfants dans la vraie vie aussi. Donc Jean-Claude était avec sa femme et avec leurs enfants. C'est un film, dira-t-elle plus tard, qui est extrêmement inspiré par son amour de la peinture et particulièrement de l'impressionnisme. Et c'est un film qui est saturé de couleurs, où la matière de la couleur joue un rôle pratiquement de personnage principal, mais il n'empêche qu'il y a quand même un scénario. Et le scénario, je ne vais pas vous enlever le plaisir si jamais vous avez la possibilité pour la première fois de découvrir ce film. Je dirais seulement que Jean-Claude va tomber amoureux d'une autre femme que sa légitime. Et que ça va se passer dramatiquement, je n'en dirai pas plus, mais qu'une femme va se substituer à une autre. Sous-entendu, quand un homme est amoureux, si la femme légitime ne veut pas d'un ménage à trois, elle n'a qu'à dégager, quoi. Parce que le désir masculin est tellement prégnant que c'est normal qu'il soit dominant. Donc ce film a été très mal reçu par les milieux féministes. Il y a eu des critiques extrêmement sévères. Agnès Varda n'a pas bien réagi parce qu'elle n'a pas compris à quel point elle s'était engagée dans une voie un peu étrange par rapport à ses propres idées personnellement, parce que je ne mets pas en doute l'engagement féministe d'Agnès Varda, qui, dans toutes les années du MLAC, de l'avortement qui était interdit, a prêté sa maison pour des avortements, sachant qu'elle encourait des peines juridiques très lourdes. Elle a signé le manifeste des 343 qui a été publié par l'Observateur. Bref, elle s'est beaucoup engagée publiquement. Mais son cinéma, il va falloir attendre ce film qui, je trouve, est moyen artistiquement par rapport à certains autres, qui est L'une chante, l'autre pas, où elle va faire, sous forme d'une comédie musicale, l'épopée d'une femme qui est engagée dans la cause féministe. Et puis après ce film, elle restera féministe. Et aujourd'hui, à juste titre, elle est considérée dans de nombreux pays à l'international comme une cinéaste engagée et féministe. Mais son parcours sera long, compliqué, complexe et pas forcément tout de suite féministe.
Vous démarrez votre livre en disant, en citant Agnès Varda qui dit « J'étais inconnue à moi-même ». Est-ce que finalement tous les deux, ces deux personnages, Agnès Varda comme Belmondo, ont instinctivement posé une marque? Parce qu'aujourd'hui, c'est une signature. Dans les deux cas, tout est Agnès Varda dans l'univers d'Agnès Varda et tout est Belmondo dans l'univers de Belmondo. Mais alors quoi, mine de rien, instinctivement, intuitivement?
Moi, je dirais, après avoir lu le bouquin de Laurent, que je trouve vraiment remarquable, pour la deuxième fois,
je vais dire que ça se voit pas que rougis.
Non, mais il est remarquable parce que justement, il est complexe et qui donne de nombreux points de vue. Mais il y a quelque chose de très émouvant dans l'histoire de Belmondo qui est bien rendu dans le bouquin, c'est qu'il a toujours été modeste. Il s'est jamais pris pour Belmondo. En tout cas, c'est ma conclusion après avoir lu ton bouquin. Et donc, oui, dans notre imaginaire, il y a Bébel, il y a Belmondo, etc., etc., qui laisse une belle aura, d'ailleurs, je trouve. Mais il y a une grande modestie. Il se trouve qu'il a été un acteur prodigieux avec je ne sais pas combien de rôles, je ne sais pas combien de réalisateurs. Il a traversé toute l'histoire du cinéma. Il est un acteur éminemment populaire, ce qui n'est quand même pas le cas de beaucoup d'acteurs. Il est aimé par des tas de générations, mais il est resté modeste. Il n'a jamais eu la grosse tête. Agnès Varda, je pense que au fur et à mesure, elle a eu beaucoup de mal à exister. Elle a eu beaucoup de mal à avoir des spectateurs. Elle a eu beaucoup de mal à faire de manière concentrique, à grandir ses publics. Petit à petit, elle est devenue connue puis reconnue. D'abord à l'international, puis ensuite en France. Puis de plus en plus aimée, respectée, admirée en France. Notamment dans le dernier tiers de sa vie. Mais sa vie a été une série d'embûches. Elle a galéré. Elle n'avait pas d'argent. Elle a été obligée de fonder sa propre maison de production, Ciné Tamari, pour pouvoir produire à son rythme les films qu'elle voulait produire. Parce que le Centre national de la cinématographie lui disait très souvent non. Parce qu'elle ne trouvait pas de productrice ou de producteur. Parce que c'était très, très difficile matériellement. Et que les gens du monde du cinéma ne croyaient pas en elle. Mais à partir du moment où elle a trouvé son public, même si c'était quelque chose qui était dans son ADN depuis extrêmement longtemps, et notamment depuis son séjour avec Jacques Demy aux États-Unis, où elle s'est construite déjà le début de son personnage, eh bien, je dirais que les 10 à 15 dernières années de sa vie, elle a fait de Varda Agnès la propre fabrique de sa notoriété, et elle est devenue un personnage, même si elle est restée une personne. Mais ce personnage, elle a commencé à le faire exister déjà aux États-Unis. Et vous savez que celui qui l'admirait et qui l'a mis à la une de son magazine, tellement déjà elle existait comme une personne qui dégageait une aura de personnage, c'était Andy Warhol. Donc Agnès Varda a donné des leçons de notoriété à Andy Warhol. Mais Agnès Varda, dans les 15 dernières années de sa vie, et aujourd'hui, disons-le, Rosalie Varda, qui est une femme admirable, qui est la fille d'Agnès Varda, en a fait une sorte de générique, de personnage, de cette petite dame toute petite, un peu ronde, avec des robes amples, avec les cheveux rouges au bout, et puis une coiffure de moine, etc. C'est un personnage. Et la rétrospective à la Cinémathèque, accompagnée de l'exposition merveilleuse sur les univers d'Agnès Varda, ben ça marche du feu de Dieu parce que c'est un personnage et que le personnage, il a traversé les générations et qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'identifient au personnage.
C'est ce qui fait, à mes yeux, en tout cas, le prix du livre de l'or, c'est que il y a le regard qu'elle vient de nous donner. Moi, je le trouve d'autant plus pertinent qu'il n'est pas ni hagiographique ni de révérence complaisante. Quand elle dit, quand elle parle du bonheur et qu'elle le met en regard de l'une chante l'autre pas, je trouve qu'il y a sa façon d'appréhender et d'apprécier le cinéma d'Agnès Varda me semble vraiment frappée d'une immense pertinence et d'un nécessaire recul qui n'enlève en rien l'admiration évidemment qu'on peut lui porter. Je trouve que le bouquin est le reflet de ça, avec la partie iconographique qui va dans le sens du warholisme, c'est-à-dire évidemment que quand on est avec son chat sur l'épaule, etc., et qu'on se... Bien sûr, il y a tout ça, il y a cette construction, et ça, le bouquin, je trouve, le montre très bien, sans en faire une sorte de charge ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut vraiment l'appréhender comme un phénomène. Moi, il y avait une chose qui m'a frappé, c'est que le jour des obsèques, parce que comme si, en plus, il y avait vraiment la marque Varda continuer, y compris après la mort, c'est que...
Les funérailles les plus sexy que j'ai jamais vues.
Absolument, et exactement, avec quelque chose qui s'est passé qui était tout à fait saisissant, c'est que ça s'est fait au cimetière Montparnasse, et que le cimetière Montparnasse est divisé en deux par une rue, dont je ne me souviens plus le nom au moment où je vous parle, mais peu importe, qui est donc une rue sans immeubles, puisque à gauche il y a le cimetière et à droite il y a le cimetière, ce qui fait d'ailleurs parenthèse que au 19e siècle les brigands, quand on les arrêtait, donnaient cette adresse là en disant aux flics, voilà, j'habite là. Ben, personne n'était dupe, mais c'est une adresse sans immeuble. Bon, parce que c'est la seule rue de Paris où il n'y a pas d'immeuble, mais bref, cette rue est bordée de ces deux côtés par ce que nos technocrates appellent des potelets, c'est-à-dire des poteaux avec une boule en haut qui permettent de baliser le trottoir. Et bien, pendant la nuit, le petit-fils d'Agnès Varda est allé peindre chaque potelé d'une couleur. Il est allé les repeindre en blanc et avec un dôme rouge pour personnifier le dôme rouge de la coiffure d'Agnès Varda. Si c'est pas de la com, si c'est pas de la transmission iconique, je ne sais pas ce que c'est. Et tout le monde a pu découvrir ça en sortant du cimetière. C'était incroyable. Fort heureusement, la mairie de Paris a laissé les potelés. Vous pouvez, si vous montez à Paris, les voir. Ça existe toujours. Mais je ne connais pas, moi,
personnellement. Mais la rue est barrée, mon cher Laurent,
oui, en
pour
ce moment,
travaux.
Oui. Parce ça Paris... débarre, ça débarre. Je l'ai presque prise hier soir, à peu près, dans le mauvais sens, toujours, moi, à vélo. Mais ça commence à être enlevé. Mais c'est saisissant, cette façon, quand même, d'envisager les choses qui est transmise, effectivement, à la génération suivante, tellement Agnès Varda a fait comprendre, y compris aux siens, qu'elle était effectivement aussi une image, aussi une marque, aussi une sorte d'installation permanente, revisitée dans beaucoup de lieux. Mais une fois de plus...
D'ailleurs, elle était artiste dans la dernière partie de sa vie. Donc
exactement.
Elle s'est autoproclamée artiste et elle s'est auto-valorisée en tant que sujet-objet Varda.
Oui, mais vous racontez très bien.
Objectivé, quoi.
Vous racontez très bien dans votre livre, finalement, ce lien qu'elle a à la peinture toute sa vie, dans tout ce qu'elle fait. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous soulignez le plaisir qu'elle a à faire de façon artisanale.
Ben oui, j'ai rarement vu, mais je pense que tu as dû l'interviewer de nombreuses fois aussi. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait les mains toujours en activité. Elle savait broder, elle savait tricoter, elle savait faire la cuisine, elle savait faire le ménage. Et quand vous étiez avec votre nagra et votre magnétophone chez elle pour pouvoir l'interviewer, fallait courir après elle parce qu'elle ne pouvait jamais rester immobile avec ses mains. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui était très habile de ses mains, qui avait besoin de les utiliser et qui a trouvé dans la dernière partie de sa vie la possibilité d'exprimer avec ses mains son propre univers. Elle a créé des personnages. Bon, vous savez peut-être qu'un de ses personnages principaux, c'était d'être devenue une femme patate et de s'être construit un costume de patate qui l'a emmenée à la Biennale internationale artistique à Venise. Et c'est quelqu'un qui sans arrêt, a réussi à se transformer elle-même. Quand elle était jeune, qu'elle est tombée enceinte de sa fille Rosalie, elle s'est photographiée elle-même tous les jours. Donc il y avait déjà une manière de prendre de la distance par rapport à son corps. Et ce qui est bouleversant, parce qu'on ne va pas parler de toutes les œuvres artistiques d'Agnès Varda, parce qu'il y en a beaucoup, mais ce qui est bouleversant, je trouve, c'est que bon, elle est morte en faisant sa dernière œuvre qui a été montrée à Chaumont-sur-Loire, dans ce festival de Chaumont-sur-Loire qui s'est ouvert le jour de la mort, d'ailleurs, d'Agnès Varda, mais que parallèlement, vis-à-vis de ses amis et des gens les plus proches d'elle, elle qui était sans arrêt dans l'obligation d'utiliser ses mains, eh bien, la dernière chose qu'elle ait faite, elle a demandé à ses amis et à ses proches, amoureux, hein, je précise, elle les a convoqués dans sa cuisine, qui était toute petite. Elle a mis sur la table de la cuisine une toile cirée qu'elle aimait bien et elle leur a demandé de se prendre la main. Et sa dernière œuvre, c'est une série de mains amoureux. Alors, ça peut être un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, une mère et sa fille, etc., etc. Et le dernier geste qu'elle a eu avant de mourir, c'est de demander à sa fille que tous les petit tableau des mains soit un cadre pour que Rosalie puisse les donner. Voilà, donc ça, c'est sa dernière œuvre, les mains des gens qui s'aiment.
Alors, vos deux livres sont très émouvants parce que finalement, on découvre, vous parliez tout à l'heure de l'humilité de Belmondo, mais on découvre chez ces deux personnages aussi une certaine mélancolie. Et ça, c'est plutôt inattendu, parce que Belmondo, on ne l'imagine pas comme ça. Mais dans les interviews que vous mettez en avant dans votre livre, Laurent Delmas, il y a aussi de ça.
Mais qui n'est pas mélancolique ? Non, c'est vrai, non, c'est une... Je botte en touche, mais oui, forcément, il y a chez lui une forme de mélancolie, mais alors, elle est vraiment... caché. Et au fond, l'intérêt, c'est qu'il n'y a que des grands cinéastes qui l'ont révélé, qui sont allés réellement les chercher. Je ne méprise pas les autres, mais il se trouve que quand on est pendu à un hélicoptère avec un caleçon à pois blanc au-dessus de la lagune de Venise, la mélancolie n'est pas là. En revanche, quand on tourne pour Truffaut ou pour Rapneau, cette merveille qui est les Mariés de l'an 2, ou pour De Broca, pour Cartouche, où il y a des scènes, effectivement, alors qu'on est théoriquement dans un film de Capellépé, mais ça n'est pas un film de Capellépé, c'est vraiment un concentré, justement, de mélancolie, de nostalgie, de choses comme ça, et que Belmondo incarne à l'absolue perfection, toujours, parce qu'au fond, il y a cette façon très délicate de faire passer les choses. Alors, il y a une façon délicate de faire passer le machisme et le virilisme. Il y a une façon délicate de faire passer la mélancolie. Et ça, je crois qu'il est, il est effectivement porteur de ça. Mais une fois de plus, là, pour le coup, c'est un vrai acteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dépend, évidemment, à la fois du désir et puis de ce que lui font jouer les metteurs en scène. Quand il tourne avec des grands, grands metteurs en scène, il atteint, oui, cette dimension-là.
Mais cette dimension, elle permet à ces deux grands personnages du cinéma aussi d'avoir un lien très particulier avec le public. Vous parliez tout à l'heure d'Agnès Varda qui aura mis du temps à conquérir le public français, mais au final, dans les deux cas, ça leur donne à tous les deux un rapport d'une forme de tendresse avec le public. Enfin, c'est ce qui ressort, je trouve, de vos deux ouvrages. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt bien plus important pour le public que pour les prix, même si, bien sûr, les honneurs ne sont pas refusés. Mais il y a quand même le lien, alors le quoi ? Le plaisir de la communauté, du groupe, de la famille aussi ?
En tout cas, en ce qui concerne Varda, elle était contente. C'est quand même la seule femme, je crois, dans l'histoire du cinéma qui ait eu à la fois une Palme d'Or et un Oscar. Donc, elle en était contente, elle en était fière, mais en même temps, quand elle a eu pour Saint-Antoine Lillois le Grand Prix de la Mostra de Venise, les organisateurs l'ont cherchée partout parce qu'elle n'était pas dans la salle, alors qu'elle aurait dû y être, elle aurait pu la voir comme les autres cinéastes, parce qu'elle était partie de l'autre côté de Venise, dans une très bonne trattoria où il y avait des bonnes pâtes. Et c'est sa fille qui a reçu la récompense parce qu'on ne trouvait pas la mère. Donc elle en avait aussi quelque chose, d'une certaine façon, pas grand-chose à faire. Mais je crois que par rapport au public, Agnès Varda, c'est une matérialiste et elle a construit un rapport très spécifique à son public. Ce n'étaient pas les récompenses les plus officielles qui lui tenaient à cœur, c'était de voir les gens dans les salles. De la même manière qu'Ariane Mouchkine, dans sa cartoucherie de Vincennes, est toujours en train de déchirer les tickets et de connaître individuellement chaque spectateur qui va voir ses productions de théâtre, de la même manière, Agnès Varda organisait les projections, choisissait les salles de cinéma, construisait les flyers, imaginait toute une communication artistique et visuelle, était là à la sortie des cinémas pour discuter le bout de gras avec chaque spectateur. Et elle a gardé dans ses archives toutes les lettres des spectatrices et des spectateurs qui lui écrivaient. Et il y en avait beaucoup. Et c'était dans des valises avec des petits rubans. Et je peux vous dire qu'elle les relisait justement dans les temps de mélancolie. Et que c'était ça, son Éden, son bonheur, sa recherche d'un cinéma artisanal. Elle a toujours pensé que le cinéma, c'était un rapport entre le cinéaste et chaque spectateur.
Oui, on retrouve ça chez Belmondo.
C'est vraiment l'anti-blockbuster à fond.
C'est
quoi.
Ça. C'est-à-dire la capacité de s'adresser à tous et en même temps de donner la sensation de s'adresser individuellement à tout le monde.
Alors, en tous les cas, chez Belmondo, là, il y a une volonté affichée à un moment donné qui va prendre le pas sur toute autre considération. C'est au moment où Stavisky d'Alain René est présenté au Festival de Cannes et où l'accueil est détestable. Alors que c'est un film extraordinaire. C'est un des plus beaux films pour moi et d'Alain René et de Jean-Paul Belmondo. Mais le film est très mal reçu. Et c'est plus qu'un mauvais accueil. Il y a des injures contre Belmondo. Les gens ne comprennent pas le film. Il s'attendait
et d'ailleurs, en ces temps de réveil de l'antisémitisme, je conseille fortement de revoir ce film de la Renée.
Oui, tout à fait. Oui, absolument. Il y a des choses extraordinaires sur la France de cette époque-là et qui a donné lieu à des abominations. Donc, effectivement, le film ne marche pas. Enfin, pardonnez-moi. Belmondo ne supporte pas ça, ne supporte pas d'être hué. Et à partir de là, à partir de Stavisky, il va décider de ne faire que des films pour le public. Donc, à destination commercial, en disant ce qui m'intéresse, c'est que le film soit vu. Le reste passera derrière. Donc, effectivement, on ira plutôt vers Audiard que vers Alain René, parce que on est sûr que le public, a priori, sera là, et on ira progressivement vers les 5 millions qui ont vu L'As des As. Bon, c'est c'est comme ça. Toujours se rappeler dans cette optique-là que L'As des As est sorti la même année que Monsieur Klein. Bon, comme quoi le cinéma il fait de choses très très différentes et plus ou moins réussies. Vous voyez bien où va mon cœur, en l'occurrence, plutôt vers Delon que Belmondo dans le cas présent. Mais pour vous dire que l'incroyable décision, c'est une incroyable décision hein, quand même de Belmondo, d'aller vers le public et de dire voilà, ce qui m'intéresse moi, c'est le public. Alors après les récompenses, etc., c'est pas sa tasse de thé. Il en aura d'ailleurs pas beaucoup parce qu'on sait bien que le système fait qu'on ne récompense pas les 5 millions et après tout, pourquoi pas, parce que en soi, les 5 millions est une récompense de spectateurs. Donc il n'aura pas beaucoup de rapport avec ce genre de hochet entre guillemets donné par le cinéma. Il y aura une blessure néanmoins et qui perdure, je crois, jusqu'à la fin de ses jours, c'est la blessure paternelle. Il sera blessé que son père ne soit pas justement reconnu plus officiellement par la République. Ça, franchement, il aurait même voulu à un moment que le futur César s'appelle le Belmondo. Bon, on lui a fait comprendre que c'était quand même un peu compliqué que la statuette qui récompensera le cinéma français s'appelle de son nom, à lui. Parce que Belmondo, c'est aussi son nom à lui. Donc ça ne passera pas. Mais néanmoins, il aurait voulu que Belmondo soit le sculpteur attitré et du cinéma français et que la reconnaissance soit là. Bon, ça n'est pas le cas. Mais en revanche, effectivement, le lien avec le public, il est à partir de là extrêmement fort. C'est-à-dire que le principal interlocuteur, c'est pas la critique, c'est pas le milieu, c'est évidemment le public. La machine fonctionnera tellement bien que tout ça se finira dans la cour d'honneur des Invalides par un hommage national. Donc la reconnaissance du public, elle passe par cette fin-là aussi, de toute évidence.
Alors, c'est ma dernière question, parce que malheureusement, le temps passe vite, mais vous parliez tout à l'heure de d'Agnès Varda, qui, les dernières années, aura vraiment eu, finalement, une carrière très artistique, en revenant à ses premières amours, finalement. Mais Belmondo, à la fin de sa vie, aura quand même réussi à faire un musée pour son père, à mettre en avant la sculpture. Donc, c'est ça ce qu'on découvre aussi dans vos ouvrages à tous les deux. C'est finalement un lien à la peinture, à l'art en général, alors différent, mais un lien assez fort.
Moi, je me souviens de Jean-Paul Belmondo. Toi, Laurent, tu as dû le voir aussi. C'est un souvenir très émouvant. Il allait toujours dans la même brasserie, pas très loin de la maison de la radio. Je crois qu'il était très absent à lui-même. Il déjeunait tous les jours dans une brasserie. Il m'est arrivé d'être à la table d'à côté de nombreuses fois. Et je revois cet homme si beau, si radieux, si absent, mais tellement gentil avec les gens qui ne savaient pas qu'il avait peut-être un peu perdu ses moyens, mais toujours avec ce sourire éclatant. Et donc, je trouve qu'il est devenu l'artiste de lui-même à la fin de sa vie. Et je crois que je garderai à jamais le souvenir de ce Jean-Paul Belmondo qui déjeunait toujours avec les mêmes deux ou trois personnes, toujours dans cette générosité, cette adresse à l'autre. Et c'est très, très, très émouvant. Et Agnès Varda, je pense qu'elle était heureuse d'être devenue l'artiste qu'elle était quand elle était toute petite fille, vers l'âge de 5-6 ans, et qu'elle a avoué à sa mère que oui, elle voulait devenir artiste. Elle a beaucoup de frères et sœurs. Aucun n'est devenu artiste. Il se trouve que par le biais de la publication de ce livre, j'ai eu accès à certains de ses frères et sœurs qui sont toujours vivants et qui m'ont dit, interloqués, « Mais comment Agnès est-elle devenue artiste ?» Mais je pense que tous les deux, dans leurs univers respectifs... Alors, chez Belmondo, il y a toute une lignée d'artistes, avec le père, qui est un très grand sculpteur, avec le petit-fils, qui est un très grand musicien aussi. Donc, il y a une lignée artistique évidente. Tandis que Varda, c'est un astre solitaire. Mais elle le savait, à l'âge de 5 ans, elle le savait. Elle l'est devenue.
J'aurais rien d'autre à rajouter sur ce que vient de dire Laure, mais peut-être comme elle l'a fait, moi, je vous livre mon dernier souvenir que j'ai d'Agnès Varda. Nous venions on n'était pas très loin de sa disparition, on ne savait pas, bien sûr, même si elle était très malade. Et on est venu avec une petite équipe de France Inter, donc quatre personnes, l'interviewer dans le cadre d'une émission qui s'intéressait à la chanson et au cinéma. Et on a passé 2 heures dans la cour de sa maison, de ses deux maisons du 14e arrondissement. Formidable, deux heures merveilleuses. On a parlé des chansons de Jacques Demy, Michel Legrand, elle, etc. Et puis, au bout de deux heures, elle nous a dit, bon, maintenant, je crois que ça va. Vous avez ce qu'il faut. Je n'ai plus grand-chose à vous dire, etc. Et elle s'est levée. Et je trouve que c'est un concentré de sa malice, de son affection, de la distance aussi qu'elle savait créer. Elle se lève, elle nous regarde, les quatre personnes présentes, et elle nous a dit « Considérez-vous comme embrassé ». Et elle est partie.
C'est un très joli mot de la fin.
Je vous le livre, je vous le dédie.
Merci à tous les deux. Alors, quand je voudrais faire un petit mot sur vos deux livres qui sont... à la fois passionnant, parce qu'on rentre vraiment dans une histoire, mais en même temps avec votre prisme à tous les deux. Et c'est pas rien, parce que c'est pas seulement raconter l'histoire d'Agnès Varda et de Belmondo, c'est aussi votre regard, votre appétence, votre analyse des situations.
Ils sont très bien mis en page par Gallimard.
Ce qui est assez génial, c'est que les deux reflètent parfaitement la personnalité de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que dans le livre d'Agnès Varda, il y a une sorte de poésie très artistique avec cette mise en page de photos qui, quand même, qui sont incroyables. Votre recherche est vraiment incroyable. Et dans le vôtre, Laurent Delmas, il y a une espèce d'énergie, de foisonnement, d'intervention dans tous les sens, d'extrait, qui ressemble aussi parfaitement finalement à l'énergie dont vous parlez dans votre ouvrage. Merci.
Laura a raison d'insister sur le fait que c'est Gallimard, vraiment.
Merci à tous les deux.